Nous lisons dans Matthieu 17. Matthieu 17, à partir du verset 24. Matthieu 17, à partir du verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?» Drachmes, c'est de l'argent. Et il fallait payer des impôts quand on allait dans certaines villes à l'époque. Et il y a un impôt qu'on appelait les 2 drachmes. Donc c'était la quantité d'argent demandé en guise d'impôt. Verset 25. On recommence verset 24. Lorsqu'ils arrivèrent à Capernaum, ceux qui percevaient les 2 drachmes s'adressèrent à Pierre et lui dirent, « Votre maître ne paye-t-il pas les 2 drachmes ?»« Oui, dit-il. » Et quand il fut entré dans la maison, Jésus le prévient et dit, « Que t'en semble, Simon ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils des tributs ou des impôts ? De leurs fils ou des étrangers ?» Il lui dit, « Des étrangers ?» Et Jésus lui répondit, « Les fils en sont donc exempts. Mais, pour ne pas les scandaliser, va à la mer, jette l'hameçon et tire le premier poisson qui viendra. Ouvre-lui la bouche et tu trouveras un statère. Prends-le et donne-le-leur pour moi et pour toi. » Donc Jésus pose la question à Pierre. Qui doit payer les impôts ? Est-ce que c'est les fils du roi ou c'est le reste ? Pierre dit, mais c'est le reste qui paye les impôts. Et Jésus dit, or, Jésus dit que, d'une manière implicite, le roi de tout, c'est Dieu. Est-ce que nous, on a à payer des impôts ? Normalement, non, puisque la terre appartient à notre Père. Mais cependant, pour éviter des polémiques, pour éviter des scandales, nous allons payer quand même les impôts. Et Jésus demande à Pierre d'aller dans une banque et faire un prêt pour payer les impôts. Non. Jésus demande à Pierre d'aller pêcher un poisson. Et il dit que dans le poisson, tu trouveras un statère. Tu payeras l'impôt pour toi et pour moi. Pourquoi je cite cet exemple ? C'est pour nous dire ceci, que le Seigneur a déjà tout réglé pour le chrétien. Il s'occupe du chrétien et au point de s'intéresser à ses impôts. Deuxième chose, le Seigneur a les ressources infinies. Il n'a pas cherché de l'aide dans une banque. Il a lui-même produit ce qui était nécessaire pour payer les impôts. Il a pris ça de la bouche d'un poisson. Il a dit, tu vas ouvrir, tu prendras un statère et tu payeras les impôts. Nous lisons Matthieu 6, 33. 6 plutôt 24. Matthieu 6, 24. Nul ne peut servir 2 maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez servir Dieu et Mammon. C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez, ni pour votre corps, de quoi vous serez vêtus. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du ciel. Ils ne sèment ni ne moissonnent et ils n'amassent rien dans des greniers. Et votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus qu'eux? Qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une longueur à la durée de sa vie? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Considérez comment croissent les lys des champs. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si Dieu revêt ainsi l'herbe des champs qui existe aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison, gens de peu de foi? Ne vous inquiétez donc point et ne dites pas, que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Car toutes ces choses, ce sont les païens qui le recherchent. Donc les païens, c'est les gens qui ne connaissent pas Dieu. Car toutes ces choses, ce sont les gens qui ne connaissent pas Dieu qui les recherchent. Votre Père céleste sait que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Dieu a deux réalisations, deux travaux, deux interventions qu'il accomplit dans l'homme. La première intervention, c'est dans l'intérêt de l'homme. Quelle est cette première intervention? C'est le salut. Dieu est conscient que l'homme est en train de se perdre dans le péché, dans le mal, et que s'il n'est pas arrêté, s'il n'est pas sauvé, il finira dans le feu éternel, dans la sanction identique que le diable, même sanction, condamnation dans le feu éternel. Et déjà, même sur terre, la personne qui n'a pas le salut de Dieu va finir par subir les conséquences de son péché. Comme c'est écrit dans Nombre 32, 23, ton péché te retrouvera. Si ce n'est totalement sur terre, ça le sera totalement. D'éternité en éternité, tu vas te retrouver dans le feu éternel à cause du péché qui est en toi. Et Dieu est conscient de ça. C'est pourquoi il veut faire un premier travail. C'est de te sauver. Ce premier travail a pour intérêt l'homme. C'est l'homme qui est visé. Dieu veut te sauver. Ça, c'est le premier travail. Il va envoyer des prédicateurs. Il va envoyer des tracts. Il va te parler dans les songes, dans les visions. Il va permettre des circonstances pour t'amener à être sauvé. Et sauver, ça veut dire quoi? Sauver, ça veut dire que Dieu te pardonne de tes péchés et il te crée de nouveau. Comme c'est écrit dans 2 Corinthiens 5, 17, celui qui est en Jésus est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Donc tu n'es plus un être qui réfléchit comme avant, mais c'est l'Esprit de Dieu en toi qui t'entraîne dans toutes choses. Il met son esprit en toi, il se met lui-même en toi, de sorte que c'est la vie de Jésus qui vit en toi. Tu deviens une nouvelle création. Et après ta mort, tu te retrouves au paradis avec Dieu, éternellement, sans plus subir la puissance du péché, l'influence du péché, libre à jamais. Voilà le premier travail. C'est un travail de salut. C'est un travail où l'homme est visé et c'est dans son intérêt que Dieu travaille. Et Dieu finalement fait de toi un autre Jésus. Tu deviens le frère de Jésus, une sorte de reproduction de Jésus. Parce que la nouvelle vie que tu reçois, c'est la vie du Seigneur Jésus-Christ. À tel point que quand Jésus-Christ parle à Pierre, il parle à Pierre comme étant pareil que lui, fils de Dieu. Il dit, mais est-ce que les fils, il dit au pluriel, est-ce que les fils ont à payer ces impôts-là? Est-ce que les fils du roi ont à payer ces impôts? Il inclut Pierre. Voilà ce que c'est être sauvé. On devient le fils de Dieu, fille de Dieu. Même titre que Jésus lui-même. Pierre dit, ben non, mais il dit, mais nous, on va quand même payer pour éviter que notre évangile se réduise en des problèmes d'impôts, de société. Notre évangile est plus grand que cela. On va quand même payer, puisque de toute manière, nous en avons les ressources. Parce que notre Père, c'est le Créateur du ciel et de la terre. Il a toutes les ressources. Va pêcher un poisson et tu trouveras un statère dans la bouche du poisson. Tu payeras les impôts. Que nous montre cette histoire? Et le Matthieu 6, 24 à 33, à 34 qu'on vient de lire, c'est que Dieu, quand il nous a sauvés, il a réglé la question du salut, c'est-à-dire qu'on est devenu enfant de Dieu, mais il a réglé aussi toutes les questions concernant la vie terrestre. Il les a réglées. C'est pourquoi à la croix, Jésus a crié, tout est accompli. Être enfant de Dieu, comprenons ce que ça veut dire. Ça veut dire, je vais me répéter, être enfant de celui qui a fait les cieux et la terre. Être enfant de celui qui a laissé Jésus-Christ, son propre fils unique, être crucifié à ta place. Alors notre frère Paul nous dit, mais si alors qu'on était mauvais, il a fait un tel sacrifice, maintenant que nous sommes sauvés, que ne fera-t-il pas pour nous? Alors qu'on était ennemis de Dieu, il a laissé son fils être crucifié pour nous. Maintenant qu'on devient amis, et plus que ça, fils de Dieu. Mais que ne fera-t-il pour nous? Lisons Romains 5. Romains 5. À partir du verset 1er. Étant donc justifié par la foi, considéré juste parce qu'on a cru en Jésus, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. Paul nous dit que nous avons cru en Jésus. Et par la foi, nous bénéficions maintenant des grâces éternelles de Dieu. Et nous attendons la gloire. Aujourd'hui, nous avons une gloire, mais qui n'est pas encore éclatante. Et il dit, nous nous glorifions dans l'espérance de cette grande gloire qui vient. Verset 3. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Paul nous explique qu'il y aura des afflictions, mais ces afflictions-là ne changent pas notre nature. Nous restons enfants et fils de Dieu et ces afflictions ont pour but d'édifier notre foi. Parce que quand quelqu'un croit alors que les choses sont négatives, sa foi s'agrandit. Alors que lorsque tout est positif, on n'a pas tendance à croire. On a tendance à se reposer sur ce qu'on voit et notre foi meurt. Voilà l'objectif. Et la persévérance, verset 4, nous donne la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. Donc, quand on gagne, on finit par avoir encore beaucoup plus d'espérance qu'avant. Puisqu'on a vécu encore un avant-goût de la victoire du Seigneur. Total. Or, l'espérance, verset 5, ne trompe point. Parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. L'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Ça sera la grande question d'aujourd'hui. Puisque notre thème, c'est « Il est l'heure de servir le Seigneur ». Mais tout le monde ne peut pas servir le Seigneur Parce que tout le monde n'a pas reçu l'amour du Seigneur. Donc, tout le monde n'a pas l'énergie pour servir Dieu. Pour servir Dieu, il faut recevoir son amour. Et Paul explique que son espérance n'est pas fausse. Son espérance vient de l'amour qu'il a reçu de Dieu. Bien-aimé, imaginez que le président de la République vous aime beaucoup. Vous aime beaucoup. Mais vous serez quelqu'un rempli d'espérance. Parce que vous savez qu'il y a des gens qui peuvent prendre 6 mois, 1 an, 2 mois pour le voir, ayant fait une demande d'audience en bonne et due forme. Mais vous, ce n'est même pas vous qui le cherchez, c'est lui qui vous cherche. Alors vous vous dites, mais vous serez un homme, une femme, rempli d'espérance, rempli de confiance, rempli d'assurance. Vous savez que moi, le problème, d'ailleurs, c'est le président qui cherche à vous rencontrer. C'est lui qui vous aime. Donc, quand vous êtes rempli de cet amour-là, vous savez, il n'y a plus de difficultés sur le chemin. Moindre difficulté, puisque lui, il cherche tout le temps à vous rencontrer, vous savez que vous pouvez l'appeler, c'est lui qui se précipitera à répondre, parce qu'il vous aime beaucoup. Aujourd'hui, bien-aimés, on s'époumonne pour dire aux gens, servez le Seigneur. Mais ça ne fonctionne pas. Mais c'est parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de Dieu. Quand quelqu'un a reçu l'amour de Dieu, il ressemble à quelqu'un qui est rassasié, qui a trop de choses, trop de vêtements, trop de nourriture. Donc, son réflexe, c'est de se débarrasser de certains vêtements, de la nourriture qui est en excès. Ça son réflexe. Vous savez, même dans les meilleures boulangeries de France, il y a des gens qui viennent le soir récupérer le pain qui est en excès. Et nous, on avait autrefois un membre de l'église qui avait eu cette sorte de contrat. On s'est retrouvé à manger des pains compliqués, extraordinaires. Parce que lui, il en avait tellement beaucoup que bon, il venait répartir à certains frères de l'église. Nous, on a mangé du pain peut-être que Jean-Marc Hérault mange. Pourquoi ? Parce que ce frère-là s'est retrouvé à recevoir du pain qu'une boulangerie cédait en excès. Donc, quand quelqu'un a reçu l'amour de Dieu, il est conduit à le répandre. Parce que lui, il en a beaucoup. Il est plein d'espérance. Comment on peut savoir que... Quelqu'un m'a posé la question, mais pasteur, alors comment recevoir cet amour? Notre frère Paul nous explique, verset 6. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, autant marqué, est mort pour des impies. Donc lorsqu'on était sans force, lui il est mort pour nous. Il s'est sacrifié pour nous. Continuons, verset 7. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait pour un homme de bien. Oui. Déjà, c'est difficile de mourir pour de bonnes causes. On a vu des parents accepter que leur fils aille dans les deux guerres mondiales. Mais c'était pour une bonne cause. On n'allait pas laisser le pays être envahi et dominé. Mais c'était déjà pas facile. C'est déjà pas facile de mourir pour un homme de bien ou de mourir pour une bonne cause. Mais, verset 8, le verset capital, Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Bien-aimé, ce verset dérange beaucoup le diable. Mais Dieu prouve son amour envers nous. En ce que, lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Parce que qu'est-ce que le diable fait? Il dit que tu es trop mauvais pour être sauvé par Dieu, toi. Qu'est-ce que le diable fait aux chrétiens? Mais toi qui es chrétien, comment t'as pu pécher? Donc c'est fini, laisse tomber, qui t'acceptera encore? Dieu t'acceptera-t-il encore? Bien-aimé, la Bible nous dit, lorsque tu étais pécheur, quand quelqu'un est pécheur, hein, il est ennemi de Dieu, parce que Dieu n'aime que le bien, la pureté, la droiture. Donc quand quelqu'un est dans le mal, il est ennemi de Dieu. Mais alors qu'il était ennemi de Dieu, Dieu sacrifie son propre fils. Pour ce pécheur-là. Alors, que ne fera-t-il alors que la personne est sauvée? C'est pourquoi quand quelqu'un est conscient, mais lorsque j'étais mauvais, Dieu a sacrifié son fils pour moi. Mais maintenant que je suis à lui, mais j'ai tout pleinement en lui. Verset 9. À plus forte raison donc, maintenant que nous sommes justifiés par son sang, serons-nous sauvés par lui de la colère? Car si, lorsque nous étions ennemis, nous avons été réconciliés avec Dieu par la mort de son fils, à plus forte raison, étant réconciliés, serons-nous sauvés par sa vie? Et non seulement cela, mais encore nous nous glorifions en Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, par qui maintenant nous avons obtenu la réconciliation. Paul dit, autrefois nous étions mauvais pécheurs, le Seigneur nous a sauvés, alors que nous étions ses ennemis. Mais maintenant que nous sommes ses amis, que ne fera-t-il pour nous? Bien-aimés. Alors, qu'est-ce que le diable a fait? Il a détourné beaucoup de gens. La Bible nous montre clairement, dans Matthieu 6, 24 à 34 qu'on vient de lire, l'exemple qu'on a pris en lisant Matthieu 17, 24 à 27, et Romains 5 qu'on vient de lire, la Bible nous montre clairement que la première intervention de Dieu, qu'on appelle le salut, aboutit à quoi? Aboutit à ce que on soit rempli d'amour et cet amour produit en nous la foi et l'espérance. Parce qu'on sait que celui qui a fait les cieux et la terre nous aime. Et donc s'il nous aime au point que son fils a été sacrifié pour nous alors que nous étions ses ennemis, maintenant qu'on est sauvé, de quoi sera-t-on privé? Il s'occupera de tout jusqu'au point de payer les impôts. Il s'occupera de tout. Est-ce à dire qu'on ne travaille pas? On travaillera, mais toujours sous, comme un cadeau qui vient de lui. Il s'occupera de tout. C'est pourquoi il finit par dire dans Matthieu 6, « Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. » La première intervention étant faite, le salut, Dieu a réglé toutes les questions concernant l'éternité. C'est-à-dire aujourd'hui, si tu pèches, 1 Jean 1,9 nous dit, tu peux demander pardon, le sang de Jésus te purifie. Or, c'est le péché qui empêche les gens d'aller au ciel. Mais Dieu a réglé cette question, le sang de Jésus peut nous purifier à chaque fois que nous confessons. Mais comment vivre sans péché? Dieu a réglé la question, il nous a donné le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit peut nous rendre vainqueurs du mal. Mais comment manger? Dieu a réglé la question. Il nous a dit, si je cherche d'abord le royaume des cieux, le reste est réglé. Puisque tout est réglé, première phase, nous aboutissons à la deuxième intervention, au deuxième travail de Dieu, à la deuxième phase. Maintenant, ça concerne Dieu. J'ai dit la première intervention concernait l'homme. La deuxième intervention concerne Dieu. Deuxième intervention. Maintenant que Dieu nous a sauvés, nous a établis fils et filles du royaume des cieux, nous arrivons à la deuxième phase, c'est servir le Seigneur. Il nous a sauvés, puisque maintenant le reste est réglé. Il dit dans Matthieu 6, c'est les païens qui sont en train de souffrir pour chercher à gauche, à droite, vêtements, nourriture, gloire, applaudissements. Il dit ça, c'est les païens qui les cherchent. Vous n'en avez pas besoin. Moi, je sais que vous en avez besoin. Et je sais que vous manquez certaines choses. Et je vais vous donner, vous n'avez pas besoin de chercher comme les païens. Parce que je sais ce dont vous avez besoin. Maintenant que ça, c'est réglé. La question du salut est réglée. La question de la subsistance sur la terre est réglée. Parce qu'il dit, mais les oiseaux ne travaillent pas, ne sèment pas, mais ils mangent. Alors, à combien plus forte raison que vous qui travaillez? Il dit que maintenant que ça c'est réglé, allons dans la deuxième phase. Et c'est la deuxième phase qui maintiendra la première phase à son niveau. C'est-à-dire que quand tu vas servir le Seigneur, quand tu vas chercher premièrement le royaume des cieux, c'est là que la première phase sera toujours maintenue. La bénédiction matérielle, la bénédiction spirituelle, la protection sera maintenue par la deuxième phase. Cherchez d'abord le royaume des cieux et vous aurez le reste. Beaucoup ont accepté la première phase, mais ils n'entrent pas dans la deuxième phase. Pourquoi? Ils ne connaissent pas la vérité selon laquelle le Seigneur a tout accompli concernant la première phase. Parce que dans la première phase, il y a le salut. Et dans le salut, il y a le fait que sur la terre, dans Jean 10, c'est écrit que Dieu nous donne une vie en abondance. Il s'occupe de tout. Il nous donne la paix, la joie, le bonheur. C'est ça la vie en abondance. C'est dans la première phase. Maintenant, beaucoup de chrétiens n'ont pas encore compris ça. Ils cherchent encore le bonheur comme chercheraient les païens à travers les biens de la terre. Ce qui fait qu'ils n'entrent pas toujours dans la deuxième phase, ou bien ils entrent dans la deuxième phase pour voler Dieu, pour faire les choses comme les païens. Mais en réalité, ils n'y entrent pas. Ils ne servent pas encore Dieu. Même s'ils peuvent avoir les titres de pasteur, ils le font pour l'argent, donc ils ne servent pas encore Dieu. Et c'est comme ça qu'on se retrouve dans l'église, à passer du temps à prier pour les choses de la terre. On veut du pain. On veut des vêtements, on veut le mariage, on veut ceci, on veut cela. On passe notre temps, on veut que notre mari soit fidèle. Donc on passe le temps à prier pour les choses de la terre. Et on reste dans la première phase. Dieu veut nous dire aujourd'hui, la première phase est réglée. Maintenant, entre dans la deuxième phase. Entre dans la gloire. Lisons psaume 127. Psaume 127. Cantique de degrés de Salomon. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Il en donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Si Dieu ne garde une maison, ceux qui gardent en vain. Si Dieu ne bâtit la maison, et vous savez qui parle là? C'est un grand bâtisseur qui a bâti comme Salomon. C'est Salomon qui a bâti le deuxième temple. C'est un grand bâtisseur. Salomon a bâti pas seulement le deuxième temple, mais il a bâti beaucoup de choses. Quand vous visitez Israël, on va vous montrer les cités que Salomon a bâties, à part le temple. C'est un très très grand bâtisseur, Salomon. Et c'est Salomon qui nous dit, si l'Éternel ne bâtit, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Il dit, vous allez travailler en vain. Et il dit, en vain, vous vous levez de bon matin, vous vous couchez tard et vous mangez le pain de douleur. Vous souffrez pour des choses alors que Dieu donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Ça veut dire quoi? Les bien-aimés de Dieu, la question de leur subsistance, la question de leur avenir matériel, la question de leur mariage, la question d'avoir des enfants, la question de leur avenir professionnel est réglée pendant qu'eux ils sont dans la joie, pendant qu'ils sont dans le sommeil. Dieu s'occupe de tout. La première phase, c'est ça. Dieu s'occupe de tout. Maintenant que lui s'occupe de tout, il veut que tu sois libre pour t'occuper de lui. Parce que la deuxième phase, la première phase, c'est l'intérêt de l'homme. La deuxième phase, c'est l'intérêt de Dieu. Dieu dit, maintenant que moi je me suis occupé de toi, et que tu es rempli de mon amour, et que tu es conscient, Romains 5, tu es conscient que tu ne peux manquer de rien puisque je t'aime. Tu es conscient que je vais m'occuper de toi. Donc tu devrais être normalement dans une certaine paix, dans la paix pour être efficace et me servir. Non, les gens ont refusé cela. Ils ont refusé. Ils continuent à passer leur temps dans la première phase, sans déjà l'obtenir presque. Parce que, vous savez, quand on ne croit pas, on n'a pas obtenu la chose. Donc, qu'est-ce qui se passe? Les chrétiens ont transformé l'église en hôpital, en banque, un endroit où on peut retirer une certaine gloire en étant prédicateur, chanteur ou je ne sais quoi, alors que toutes ces choses que nous sommes en train de citer, ils l'ont
parce qu'ils sont des fils et des filles du roi. Ils l'ont déjà. Mais le diable leur a fait croire qu'ils n'avaient pas cela. Vous savez, quand le diable a tenté Jésus, qu'est-ce qu'il lui a dit? Si tu te prosternes devant moi, je te donnerai tous les royaumes de la terre. Mais Jésus était déjà roi de la terre, roi de l'univers même. Mais Jésus devait passer 33 ans sur la terre, démuni de sa gloire, de roi de l'univers. Et ces 33 ans-là allaient être difficiles pour Jésus parce qu'il allait vivre comme s'il n'était pas le roi, mais tout en l'étant. Et le diable lui a dit, mais moi je veux te faire roi dès maintenant, le vivre maintenant. Jésus lui savait qu'il était roi. Il n'avait pas besoin qu'on fasse de lui encore un roi puisqu'il l'était. Il a dit, Satan, ce n'est pas la peine. Je ne peux pas me prosterner devant toi. Ma vie, c'est servir l'Éternel. Il a dit, il est écrit, tu adoreras Dieu et tu le serviras lui seul. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent que ce sont leurs bras et leurs efforts qui les ont amenés à un niveau donné ou qui leur ont donné une certaine position. C'est faux. Je le dis même aux païens, sachez-le, il est écrit que c'est Dieu qui établit les rois. Quand nous voyons François Hollande, président, la Bible dit que c'est Dieu qui l'a établi. Mais que dira le diable à François Hollande ou à n'importe quel président? Si tu ne fais pas telle magie, si tu n'entres pas dans la franc-maçonnerie, si tu ne passes pas par telle procédure, tu ne seras pas président. Moi, je veux te faire de toi un président. Voilà la procédure à suivre. Satan, d'une manière surnaturelle, à cause du fait que le monde n'est pas physique, a vu des signes chez toi. Mais il ne sait pas exactement ce que tu vas devenir, mais il a vu des signes. Vous savez, c'est comme quand on est petit, on peut voir un enfant courir très vite et penser que s'il est bien encadré, il sera un bon athlète. On peut voir un enfant très fort dans une certaine matière scolaire, penser à son avenir et l'orienter dans ça. Mais ce n'est pas nous qui avons fixé ce qui est dans cet enfant-là, on a simplement constaté. Et Satan est pareil. Il constate, il sent en toi qu'est-ce que tu peux devenir plus tard, plus ou moins. Et lui, il va venir vouloir accélérer ça avant le temps ou bien te mentir, te faire croire que c'est lui qui t'amène à ça. Or, ce n'est pas lui, c'est Dieu qui a prévu ça. Et c'est pourquoi beaucoup tombent dans le panneau. Ils se disent, c'est parce que j'ai touché telle magie, j'ai fait tel fétiche. J'étais dans la franc-maçonnerie, c'est grâce à ça que je suis devenu ceci, je suis devenu cela. C'est faux. Satan vit que tu l'allais devenir. Et il n'a fait que court-circuiter le chemin par lequel tu devais devenir cela, le chemin de Dieu. Lui, il vient te dire, c'est moi qui peux te donner. Alors en ce moment, tu dois dire, non, 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 non. Je sens que je vais le devenir. Et je vais chercher Dieu. Mais les gens, à l'inverse de Jésus-Christ, cèdent devant le diable. Ils entrent dans la franc-maçonnerie, ils entrent dans la magie, ils entrent dans le dopage, ils entrent dans quelque chose qui les amène quelque part où ils seraient quand même arrivés sans le fétiche, sans le dopage, sans la magie, sans la rose-croix, sans faire partie de tel club. Satan les a trompés. Que Satan ne vous trompe pas, bien-aimés. Dieu est au contrôle de tout. Quand on est fils du roi, fille du roi, tout est prévu pour nous. Que Satan ne vous trompe pas pour vouloir accélérer ça avant le temps. Pour vous dire, mais je vais vous donner, mais ça sera un faux. Et Jésus a refusé ça. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup sont dans l'égarement. Ils n'ont pas saisi qu'à leur naissance, ils avaient déjà des qualités pour être ce qu'ils sont maintenant. Et que c'est Dieu qui avait fixé les choses. Ils ont écouté la voix des démons. On leur a proposé, comme on a proposé à Jésus, et ils ont cédé. Jésus a dit, non, je ne servirai que Dieu. C'est ce qui est écrit dans la parole. Bien-aimé, si on te propose de visiter un voyant pour régler un problème familial, refuse. Dieu peut régler cela. Si on te propose d'aller voir un féticheur, même si ce féticheur se nomme pasteur, pour enfanter ou obtenir un mariage, refuse. Ne fais pas les choses selon l'accélération du diable. Fais les choses selon le temps de Dieu. Dieu a des plans pour nous tous. Et le diable peut les pressentir et nous pousser à y entrer par nos moyens ou ses moyens à lui. Or, c'est faux. C'est Dieu qui avait fixé les choses. Et quand on y est, surtout quand on y est, on se dit, mais c'est vrai. J'ai consulté tel magicien. Maintenant, j'enfante. Mais c'est un enfant de malheur. Le diable savait que Dieu allait finir par te donner. Le diable savait que tu allais finir par te marier. Le diable savait que tu allais finir au poste dans lequel tu es aujourd'hui. Mais il a voulu te faire croire que c'est lui qui te le donne. Et tu as quelque chose de maudit au lieu d'avoir ce que Dieu avait prévu pour toi, de beau et d'excellent. Attention, bien-aimé, que personne ne vous trompe. Le Seigneur a des plans pour nous excellents que les plans falsifiés du diable. Parce que les plans du diable finissent à notre perte totale. Et beaucoup s'accrochent. Ils s'accrochent tellement à leur plan personnel communiqué par le diable. Et parfois, c'est même le plan de Dieu. Mais ils pensent que c'est leur plan à eux ou le plan du diable. Ou certains pensent que c'est le plan de Dieu, mais ils veulent y arriver par leur méthode ou par l'aide diabolique. Et l'aide diabolique peut passer par des mauvais conseils de prétendus hommes de Dieu, mais qui n'en sont pas, mais qui nous donnent des conseils que selon ce que nous on veut entendre. Et on préfère accepter de tels conseils parce que ça va dans notre sens et on refuse d'accepter les conseils qui iront dans le sens contraire, mais qui nous approchent du plan de Dieu. Et vous savez, il y a un verset qu'un bien-aimé m'avait donné autrefois. Je crois que c'est Proverbe 10, 22. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et elle n'est suivie d'aucun chagrin. Alors que certains conseils nous approchent de la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et qui n'est suivie d'aucun chagrin, le diable veut nous accélérer vers une bénédiction qui va être un piège pour nous, qui va nous faire chuter gravement. Attendons le plan de Dieu, bien-aimés. Ne nous précipitons pas. Parfois, le plan de Dieu coïncide avec ce que Satan te promet. Et tu as l'impression que tout est bon. C'est vrai, ça semble que tout est bon, mais en réalité, le diable, en passant par ses méthodes à lui, il détruit même le plan de Dieu pour toi. Parce qu'il t'associe à ce qui est périssable, et quand tu vas y entrer, ça sera suivi de beaucoup de chagrin. Alors qu'il suffisait de se rappeler que Dieu nous aime beaucoup et qu'il a tout prévu pour nous. Si nous étions ennemis, il a laissé son fils mourir pour nous. À combien plus forte raison, maintenant que nous sommes à lui, tout est pour nous. Et l'apôtre Paul, il dit dans 2 Corinthiens 6, nous sommes pauvres, mais nous enrichissons plusieurs. Donc Paul dit, en moi-même, en lui-même, il n'a rien du tout. Mais par ses prières, par ses prédications, il a la capacité de faire entrer ceux qui sont appelés à être riches par Dieu dans cette richesse-là. Mais lui, peut-être il n'est pas appelé à avoir des gros comptes bancaires, il est appelé à vivre autrement. Mais il y a des gens qui sont préparés par Dieu, appelés par Dieu pour avoir des gros comptes bancaires. Et ceux-là, Paul les y amène sans que lui-même forcément en ait beaucoup. Et certains, nous en tant que serviteurs de Dieu, en s'approchant d'eux, on peut sentir que ceux-là sont appelés à devenir riches. Mais ces gens-là, eux-mêmes aussi sentent ça, mais ils finissent par choisir la façon dont le diable leur propose de devenir riche au lieu de suivre ce que Jésus propose. Cherchez d'abord le royaume des cieux. Fais le deuxième plan. Deviens serviteur. Passe au service. Quand tu passeras au service, la première phase deviendra de plus en plus parfaite pour toi. Passe au service. C'est l'heure de servir le Seigneur bien-aimé. Si nous servons le Seigneur, nous avons la garantie dans Matthieu 6 que le reste s'accomplira tout seul. C'est comme si la première phase, on en a l'assurance, mais on n'a pas encore tout. C'est simple de le constater, parce que tu peux être sauvé à l'âge de 18 ans, tu n'as pas encore ton diplôme que tu auras à l'âge de 25 ans. Tu peux être converti à l'âge de 14 ans, tu n'as pas encore les enfants que tu auras à l'âge de 30 ans. Donc, mais tu as déjà l'assurance de tout ça. Maintenant, la concrétisation de tout ça va se manifester à travers la phase 2. Quand tu commences à servir Dieu, la phase 1 commence à devenir réelle. C'était des promesses, c'était une assurance, c'était une espérance, ça commence à devenir réel. Parce que tu es dans la phase 2. Tu es dans le chemin du Seigneur. Le chemin du service, c'est le chemin du Seigneur. Parce qu'il nous a assuré des choses. Maintenant, il nous demande de passer à une phase dans laquelle nous trouverons les choses dont il nous a assurées. Dans laquelle nous vivrons cela sans effort parce qu'elles nous y suivront. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Quand tu crois, la phase 1 revient encore. Parfaite, elle s'accomplit. Mais nous avons refusé la phase 2. On refuse de servir le Seigneur. Dieu s'est d'abord occupé de nous. Maintenant qu'il s'est occupé de nous, il nous a sauvés. Il veut que nous, on s'occupe de lui. Amen. Il veut qu'on s'occupe de lui maintenant. Dans Luc, au chapitre 8, il est question d'un homme qui avait environ 5000 démons. Quand il a été sauvé, cet homme est resté attaché à côté de Jésus. Il ne voulait plus quitter Jésus. Il voulait l'accompagner partout. Parce que lui, il était fou. Il dormait dans les cimetières, enchaîné. Et Jésus-Christ le sauve. Il devient saint d'esprit. Et non seulement il devient saint d'esprit, il devient éternel. Il devient fils de Dieu. Il dit, maintenant ma vie, c'est pour ce Jésus qui m'a sauvé. Bien, mais c'est tellement logique que moi, j'ai souvent dit que beaucoup ne sont pas chrétiens au milieu de nous. Beaucoup ne sont pas convertis. Parce que c'est tellement naturel. Cet homme, il dormait dans les cimetières. Et on le sauve de tout ça. Pour lui, c'est évident. Je ne vivais pas, j'étais mort. On me donne la vie, mais maintenant cette vie va servir à quoi? À glorifier celui qui m'a sauvé. Non seulement ça, c'est quoi cette vie que je reçois? C'est la vie de Jésus lui-même. Maintenant, quelles sont les intentions de Jésus pour lui-même? Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Maintenant, quand je suis chrétien, ce n'est plus ma vie que j'ai, c'est la vie de Jésus. Que veut Jésus? Il veut glorifier son Père. Que veut Jésus? Il veut participer au salut de toute l'humanité. Que veut Jésus? Il veut aider le pauvre. Que veut Jésus? Il veut parler de la bonne nouvelle. Que veut Jésus? Il veut construire son ecclésia, l'assemblée des enfants de Dieu. C'est cette vie que nous avons reçue quand nous avons été sauvés. Et c'est logique que ça nous amène au service. Le service, ce n'est pas seulement occuper un poste à l'église. Un poste en vue. Quand quelqu'un nettoie les toilettes, il est au service de Dieu. C'est encore un plus grand service parce que personne ne le voit. Dieu seul le voit. Quand quelqu'un s'occupe de ses enfants, selon la Bible, il est au service de Dieu. Il prépare ses enfants à servir Dieu. Mais il y en a qui préparent leurs enfants à épater les autres. Il y en a qui préparent leurs enfants à réussir dans la vie, comme on dit. Et ils finissent par échouer dans la vie. Tu dis, mais comment? J'ai tout fait. Mais non, tu ne t'es pas intéressé à Dieu. Il fallait préparer les enfants pour servir Dieu. Tu les as préparés pour réussir dans la vie. Mais ils n'ont pas réussi du tout. C'est ça la réalité. Servir Dieu, c'est tout faire par obéissance à son appel. Est-ce que réellement, tu obéis à l'appel de Dieu? Je ne connais pas l'appel de tout le monde. Chacun de nous sait ce que Dieu est en train de lui dire aujourd'hui. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit hier. Ou alors, si tu ne sais pas, la deuxième question revient, est-ce que tu es en communion avec Dieu ?
si tu es vraiment en communion avec Dieu, tu ressentiras ce que Dieu fait comme attraction dans ta vie, dans quoi il t'amène, tu ressentiras. Je parlais de moi, comment j'ai été conduit à servir Dieu. Et une personne m'a dit, ah, mais toi au moins tu as reçu l'appel. Moi je dis, mais non, mais tout chrétien reçoit l'appel. Tout chrétien reçoit l'appel. Ce n'est pas une personne particulière, tout chrétien. Mais c'est la première phase qui n'est pas encore accomplie. Tout celui qui se dit chrétien n'a pas forcément reçu l'amour de Dieu. Et peut-être ne l'est même pas. Vous connaissez la fameuse histoire de Maurice Ray, qui était pasteur. Ça faisait 3 ans qu'il était pasteur. Il avait son diplôme de théologie. Et le travail de Dieu n'avançait pas. Et il a appelé un pasteur aîné pour lui demander des conseils. Souvent, les gens veulent des conseils techniques, comme si on était dans le monde. Bon, il faut prêcher 5 minutes, et puis dans la prédication, dire ceci, il faut faire cela, et tu verras l'église, ça va avancer. Non, mais le pasteur aîné n'a pas dit donner ce genre de conseils. Le pasteur lui a dit, je comprends ton problème, c'est que tu n'es pas chrétien. Il dit, quoi? Moi, je suis pasteur. J'ai mon diplôme de théologie. Et tu dis que je ne suis pas chrétien. Il dit, oui, tu n'es pas chrétien. Tu n'as pas la vie de Jésus en toi. Tu n'as pas connu l'amour de Christ. Tu es sec. Tu travailles par tes propres efforts. Tu veux fuir le mal. Tu veux plaire à Dieu. Mais toi, tu n'as pas été sauvé. Comment tu peux faire tout ça? Maurice Ray s'est humilié. Il s'est converti. Il a dit, je veux devenir chrétien. Le pasteur aîné a prié pour lui. Il est devenu chrétien. Le soir, quand il est rentré à la maison, il a ouvert sa Bible, il est tombé sur Éphésiens 4, 11. C'est moi qui appelle les docteurs, les pasteurs, les prophètes, les apôtres. C'est là qu'il a reçu son appel. Et Maurice Ray est parti prêcher à la gare de midi à Bruxelles. Il y avait un paralytique dans les environs. Il a prêché l'évangile. Il a dit à ce paralytique, lève-toi et marche. Il s'est levé, il a marché, bien-aimé. Parce qu'il avait maintenant reçu le véritable appel qui vient d'en haut. Parce qu'il était sauvé. La première phase était réussie. Quand la première phase est réussie, nous passons directement à la deuxième phase. Si on a du mal à passer à la deuxième phase, c'est que la première phase n'est pas réussie. Il y a un problème. Beaucoup n'ont pas reçu l'amour de Dieu. L'apôtre Paul nous dit que nous avons l'espérance parce que nous sommes remplis de l'amour de Dieu. Nous souvenons que si un est mort pour tous, il dit ça dans un autre verset, dans 2 Corinthiens 4, il dit si un est mort pour tous, tous nous devons mourir pour celui-là. Cet amour-là, quand tu réalises ce que Jésus a fait pour toi et que tu acceptes cet amour, tu es rempli toi aussi. Tu es transformé, tu deviens comme Jésus. Et Jésus, lui ne cherche qu'à sauver. Lui ne cherche qu'à servir Dieu. Automatiquement, on passe à la deuxième phase. C'est l'heure, bien-aimé, de servir Dieu. On n'est pas là pour... Je ne prêche pas pour culpabiliser quelconque. Je prêche pour que tu prennes conscience que la première phase est réglée. C'est que tu prends du temps pour chercher la première phase, pour chercher les voitures, chercher les vêtements, chercher la richesse, chercher... Il y en a même parfois qui m'ont posé la question, comment se fait-il que tu as connu la Bible? Comment tu connais la Bible? Donne-moi la méthode. Tu cherches des méthodes humaines. Moi, je te dis, laisse-toi convertir par le Seigneur. Tu veux des conseils pour que ton mariage réussisse? Laisse-toi convertir par le Seigneur. Reçois l'amour de Dieu. Accepte de servir Dieu. Accepte la deuxième phase. Si tu acceptes la deuxième phase après avoir reçu la première phase, tu verras la première phase s'accomplir. Tout devenir réel. Toutes les promesses du Seigneur. Ma sœur m'a raconté que dans leur église, une fois, ils ont reçu un homme qui a été présenté comme un prophète. Alors, ils s'étaient dit, ah, ce monsieur-là qu'on présente comme prophète, il va commencer à prier pour nous tous, commencer à dire des choses sur nous, encore tout le cinéma qu'on connaît. Quand le prophète a commencé à prêcher, il leur a dit, vous savez c'est quoi la prophétie? Et il leur a pris par exemple, il a pris un texte. Je vous donne un exemple, Deutéronome 28. C'est écrit, si tu obéis, voici les bénédictions. Si tu obéis à la parole de Dieu, voici les bénédictions qui arriveront dans ta vie. Il cite beaucoup de bénédictions. Il leur a pris aussi
un autre passage qui montre comment l'obéissance entraîne des bénédictions, beaucoup en grande quantité. Il dit, qui peut être prophète? Il dit, tous les chrétiens. Il suffit de lire la Bible. Puisqu'un vrai prophète, quand il prophétise, ça se réalise. Quand tu lis et tu crois à ce qui est écrit dans la Bible, tu es prophète. Maintenant, comment on reconnaît que tu es un vrai prophète? Lorsque tu pratiques. Parce que quand tu pratiques, ça va s'accomplir. Mais ils étaient révolutionnés dans leur église. Mais nous tous, nous pouvons décider de ce que notre vie peut devenir. Il suffit d'obéir à la parole de Dieu. Et toutes les promesses qui sont décrites vont s'accomplir. Donc tu deviens prophète pour toi-même. Puisque tu as lu, tu as obéi. Donc tu es prophète pour toi-même. Ils étaient transformés dans leur assemblée. C'est ça la vérité, bien-aimé. Tu lis, tu crois, tu deviens prophète. Quand tu obéis et que ça s'accomplit, tu deviens un vrai prophète. Parce que tout le monde peut parler, tout le monde peut prêcher, mais ça ne va pas s'accomplir pour tout le monde. Ça va s'accomplir pour ceux qui obéissent. Donc on peut devenir son propre prophète lorsqu'on écoute la voix de Dieu, on croit et on obéit à son plan et les choses s'accomplissent pour nous. Est-ce que tu obéis à l'appel de Dieu qui est dans ton cœur? Est-ce que la famille ne t'a pas bloqué? Est-ce que les amis ne t'ont pas bloqué? Est-ce que des circonstances ne t'ont pas éloigné du plan de Dieu, de la deuxième phase? Est-ce que tu sers Dieu tel que Dieu vraiment aurait voulu dans ton cœur? Moi, je ne peux pas parler pour les autres. Que chacun parle pour lui-même. Si la deuxième phase n'est pas accomplie, tu auras des blocages dans la première phase. Parce que c'est la deuxième phase qui te fait entrer dans ta royauté. Vous savez, il est écrit dans Apocalypse 5, 9, il y a peu de temps, on ne peut pas encore lire tous les versets, que Jésus a fait de nous des prêtres, un royaume des rois et des sacrificateurs et des prêtres. Maintenant, plus tu es prêtre, plus tu deviens roi aussi. Moins tu es prêtre, moins on voit ta royauté. Jésus, que sa royauté, hein, on la voyait en fonction de sa prêtrise. Plus il servait Dieu, plus lui-même il était servi comme roi. C'est cela. Plus tu sers Dieu, plus tu es dans la deuxième phase, plus tu vas vivre le titre de la première phase. Fils de Dieu, roi. Bien aimé, c'est agréable de vivre ça. C'est agréable. Je ne vous conseille pas ça, mais je suis souvent en excédent de bagages quand j'avais dans les aéroports. Et notamment au dernier voyage, j'avais un bagage à main qui ressemblait à un bagage de soute. J'ai dit, ça ne passera pas. Mais j'ai dit, je n'ai pas le choix, je suis fils de roi, j'y vais d'abord et on verra après. On va là-bas, bien aimé, un employé me protège. Il s'occupe de moi et tout passe à l'étonnement de mes frères et sœurs. Bien aimé, c'est beau de vivre la royauté. Quelqu'un aurait préféré avoir beaucoup d'argent, acheter première classe et avoir beaucoup de kilos. Moi, je préfère la royauté. Même s'il n'y a pas beaucoup d'argent, on va par la foi. J'ai dit, je ne conseille pas des excédents, mais puisque Dieu est le maître de tout, moi, je passe comme ça. J'ai dit, c'est Dieu qui a créé tout. Et tu vis la royauté. Parce que vous savez, en Afrique du Sud, il y a une corruption énorme. Et la dame qui m'arrangeait, qui me facilitait la tâche, il y a un monsieur à côté qui lui disait de me demander un cold drink, une boisson fraîche. Ça veut dire un peu d'argent de corruption. Maintenant, pendant qu'il discutait de ça, moi, je l'ai regardé en face comme ça. Après, il a dit, bon, vas-y. J'ai attendu qu'on me demande le cold drink. Je lui ai dit, mais non, mais moi, je suis ambassadeur de Dieu, je ne peux pas payer de cold drink. J'ai déjà payé, mon maître a déjà payé à la croix pour ces kilos en excédent. Amen. Et c'est passé au nom de Jésus-Christ. Dieu est tout puissant. Si tu veux vivre la royauté, vis la prêtrise. Vis la prêtrise, sois prêtre de Dieu et tu vivras le titre de roi, de fils du roi. C'est une réalité. Beaucoup sont tristes. Ils n'ont pas ce qu'ils attendaient dans leur mariage. Ils n'ont pas ce qu'ils attendaient
dans la vie professionnelle parce qu'ils ne sont pas serviteurs de Dieu. C'est l'heure de passer au service de Dieu. Cherchez d'abord le royaume des cieux. C'est l'heure de passer au service de Dieu. Au moment où les serviteurs du diable multiplient de force, multiplient d'entrain, c'est le moment où les vrais chrétiens doivent multiplier de force et d'entrain. Les serviteurs du diable, ils ne se laissent pas freiner. Ils vont encore plus loin dans le mal. Ils veulent faire voter des lois absurdes, des lois de péché. Et ils s'emploient avec diligence. Et quand ils enfreignent les lois, ils appellent ça justice. Quand Noël, ma mère, a osé symboliquement marier deux homosexuels, alors que c'était une enfreinte à la loi, une infraction, ça c'était considéré comme mener une lutte. Et nous les chrétiens, lorsqu'on doit mener une lutte, on réfléchit 20 fois, on ne veut rien faire, on est là à se dire qu'un jour je mourrai, j'irai au ciel. Entre-temps, notre terre n'est pas à la hauteur d'une terre de fils de roi. On vit ce que j'ai vécu dans une église en Afrique du Sud où j'étais invité à visiter, pas à prêcher. Le pasteur s'est employé pour guérir une dame qui marchait difficilement. Pendant 10 minutes, j'ai eu honte. J'ai dit, mais si un musulman était là, si un anti-dieu était là, il se serait moqué de nous abondamment. Allez, lève la jambe. La dame lève la jambe, ça ne se lève pas. Marche. Et il commence à faire l'athlétisme, les deux, devant le... Mais l'athlétisme au ralenti, bien aimé. Et à la fin, après les 10 minutes, la dame, son état n'a pas changé. Maintenant, il envoie les anciens aller prier pour la dame. Les anciens prient. Il y a un même qui faisait comme si un geste de casser quoi, je ne sais pas ce qu'il cassait. Avec... Il a transpiré pour rien. Et la dame, son état était toujours le même. Je dis, Seigneur, quelle honte. Quelle honte pour les chrétiens. On n'a plus de puissance. On n'a rien du tout. On commence à essayer des méthodes de kinésithérapie. Bien aimé. Le pasteur a fait la kinésithérapie en face. 10 minutes. Ça n'a pas marché. Il manquait l'acupuncture. C'est honteux. Quand je vois ça, je dis, Seigneur, où est le titre de roi? C'est du bricolage. Parce qu'on ne veut pas servir Dieu. On veut juste profiter du nombre de gens dans l'église. On veut profiter de l'argent. On ne veut pas servir Dieu. Dieu veut qu'on le serve, bien-aimé. C'est l'heure de passer à la deuxième phase. Il y a un temps pour tout. Il y a eu un temps pour être sauvé. C'est l'heure de servir. Et quand on sert, tous les avantages du salut se manifestent. Mais quand on ne sert pas Dieu, même notre salut commence à devenir fragile. On ne le perd pas, mais il commence à devenir fragile. Et l'Église est remplie de doléances personnelles, individuelles. Au lieu de prier pour que Dieu soit glorifié, on ne fait que prier pour nous, pour des choses qu'on a déjà obtenues en étant sauvés. Je ne dis pas qu'il ne faut pas demander la nourriture. Mais il faut passer moins de temps à demander la nourriture, à demander les choses de la terre, et plus de temps à demander les choses du ciel, c'est-à-dire les choses du service. Seigneur, je veux que la France soit sauvée. Je veux que mon quartier soit sauvé. Je veux te servir en esprit et en vérité. Je veux que moi et ma famille te servions. Je veux ça. Demander les choses du royaume, donner les choses du service. Il y a un homme qui a dit à Jésus, je vais te suivre, mais je dois d'abord aller enterrer mon père. Jésus a dit, mais laisse les morts enterrer leurs morts. Toi, sers Dieu, tu verras que toutes les choses seront réglées. Vous savez, mais il y a un temps de difficulté, il y a un temps d'incompréhension. Pendant que nous, on sert Dieu, les gens nous qualifieront de gens sans objectif, des gens irrationnels, qui n'ont pas les pieds sur terre. Il y a un temps de flou. Mais, il y a un temps où Dieu va montrer que c'est toi qui as fait le bon choix. Quand on commence à servir Dieu, tout le monde ne peut pas comprendre qu'un tel homme commence à se faire injurier sans répondre. Mais pourtant, il a les muscles. Mais un tel jeune homme, il a que 17 ans. Mais toi, qu'est-ce que tu vas faire à l'église tous les jours? Tu es jeune. Il y a de l'incompréhension. Mais quand il va y avoir un accident, et que finalement, tu es le seul à être sauvé et les autres sont morts, les gens diront, ah, vraiment, heureusement, lui, il priait Dieu. Voilà. Il y aura un jour où Dieu montrera que ceux qui le prient en vérité, ce sont ceux-là qui ont fait le bon choix. Un jour, il y aura cette différence-là. Je me rappelle d'une histoire qu'on nous a postée sur Internet où une personne avait dit, quand c'était une jeune femme, elle a dit, bon, nous on entre dans la voiture, ils vont aller dans les boîtes de nuit, faire des amusements. Et Dieu, puisque c'est, vous savez, aux États-Unis, la plupart des familles parlent de Dieu. Hein? Dans la plupart des familles, on parle de Dieu. Et la fille disait, on met Dieu dans le coffre de la voiture. Nous, on part faire notre virée. Et ils ont eu un accident où elle était brûlée complètement. Vous savez, il y avait un plateau d'œufs dans le coffre de la voiture et les œufs n'ont pas été cassés. Dieu était réellement dans le coffre de la voiture et les œufs sont restés malgré l'accident. Les œufs n'ont pas été touchés, mais elle était défigurée. C'est ça, bien-aimé. Un jour, Dieu va montrer même que je suis avec les œufs de poule. Puisque vous m'avez envoyé là-bas, je suis là-bas. Et vous, vous êtes sans Dieu. Servir Dieu, bien-aimé, nous amènera dans un temps d'incompréhension. Que ce soit dans la famille, que ce soit chez les amis, que ce soit dans l'environnement, que ce soit dans notre intelligence, même parfois notre intelligence nous dira, mais il y a un problème. Mais si nous sommes dirigés par l'amour, par le feu qu'il y a en nous, un jour, Dieu nous justifiera. Il montrera que c'est toi que j'ai choisi, parce que tu as obéi à ma parole. Servons le Seigneur, bien-aimé. C'est le moment. Si nous voulons vivre la royauté, soyons prêtres de Dieu. C'est la vérité. Arrêtons de faire le chrétien du dimanche, de jouer au chrétien du dimanche. Arrêtons de jouer à celui qui veut recevoir. Le système R. Tu es là seulement pour recevoir une bonne prédication, une bonne prière, un cadeau de quelqu'un. Mais tu ne veux pas donner ce que Dieu a fait pour toi. Il y en a qui ont... Vous savez, moi, dans l'expérience, j'ai été dans beaucoup d'églises. Hein, depuis le Maroc où je me suis converti, depuis l'âge de 22 ans, j'étais déjà responsable dans une église. Et j'ai compris une chose. Dans les églises, en général, les vrais chrétiens ne travaillent pas. Et ceux-là qui cherchent la gloire humaine, c'est eux qui sautent les premiers. Et les vrais sont tout le temps là à dire, il y a une erreur à gauche, il y a une erreur à droite. Mais eux-mêmes, ils ne veulent pas toucher, mettre la main à la pâte. Peut-être de peur aussi de faire des erreurs. Ils restent toujours en retrait, en disant, il y a une erreur à droite. Ceux qui connaissent bien, parfois, ils sont humbles dans leur vie. Ils sont capables de reconnaître les erreurs, mais ils ne veulent pas se mouiller. Et c'est malheureux, parce que l'Église du Seigneur se retrouve dans des combats toujours, parce que les faux vont très vite monter, parce que les vrais ne veulent pas. Et il faut encore combattre pour extirper les faux. Toujours combattre, parce que les vrais ne veulent pas se lever. Ils sont remplis de discussions, remplis d'hésitations. Et ils sont remplis de connaissances parce qu'ils savent reconnaître les erreurs. Mais ils ne veulent surtout pas, eux, se mouiller. Bien-aimés, Dieu n'attend pas qu'on devienne des microscopes. Il veut qu'on soit des acteurs pour l'avancement de son royaume. Chacun connaît ce que Dieu lui dit. Tu sais ce que Dieu te dit. Tu connais le dérangement que Dieu fait dans ton cœur. Tu connais. Moi, je suis là pour te le rappeler. Je ne suis pas là pour te dire ce que Dieu veut de toi. Je suis là pour te rappeler que Dieu veut de toi quelque chose, que toi tu sais. Et si tu le sais certainement, suffisamment, tu viendras nous voir pour la confirmation peut-être. mais tu le sais comment Dieu te dérange. Vous savez, quand Paul s'est converti, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Arrête de résister contre les aiguillons. Ça veut dire que Paul, quand il combattait les chrétiens, en réalité, il fuyait son appel. Il sentait en lui, peut-être, une sympathie qui naissait envers la doctrine des chrétiens. Mais il ne concevait pas que lui, un juif, devenu chrétien, c'était un blasphème, c'était une malédiction. Il perdait tout en devenant chrétien. Il était pharisien, fils de pharisien, de la tribu de Benjamin, et devenu chrétien. Ça faisait de lui du papier, ça faisait de lui un déchet de poubelle. Alors, pour lutter contre ça, il a préféré commencer à emprisonner les chrétiens, combattre la doctrine chrétienne. En réalité, il sentait que Dieu l'appelait. Et il combattait contre ça. Et beaucoup d'entre nous savent, bien-aimés, nous sommes tous des humains, nous passons par les mêmes chemins. Beaucoup d'entre nous savent ce que Dieu attend d'eux. Mais ils ne veulent pas perdre les autres avantages, malheureusement. Et vous finirez mal, malheureusement. Malheureusement. Parce que ce que le diable donne, ça finit par pourrir et nous détruire. Mais Dieu veut que tu vives la royauté. Humilie-toi, laisse-toi convertir, sauver, pour recevoir l'amour de Dieu. Humilie-toi, sers le Seigneur, tel que le Seigneur te le demande. Amen. Prions le Seigneur. Seigneur, nous venons prier que nous puissions nous humilier. Au milieu de nous, il n'y a pas de professionnels, il n'y a pas de débutants. Aujourd'hui, le chronomètre est mis à zéro pour nous tous, Seigneur, pour nous humilier et nous arrêter de tourner en rond sans te servir. Nous arrêter de chercher que des choses de la terre. Nous arrêter de raisonner pour te servir, de réfléchir, de compliquer les choses. Comme c'est écrit dans le psaume 46, arrêtez, sachez que je suis Dieu. Et chacun de nous sait ce que tu lui dis. Seigneur, nous prions pour la sincérité. Que chacun soit sincère envers lui-même. Pour se dire à lui-même, je sais que Dieu, tu me parles et tu m'as parlé encore ce matin. Que chacun soit sincère avec lui-même pour reconnaître qu'il a un pas de plus à faire encore pour te servir. Au lieu, Seigneur, que nous puissions te chercher pour que tu résolves nos problèmes que tu as déjà résolus, Seigneur, c'est vraiment rigolo te chercher pour résoudre des problèmes que tu as déjà résolus. Et on passe notre temps à le faire. Nous prions, Seigneur, que nous puissions nous convertir réellement, recevoir l'assurance de la solution de tous nos problèmes et nous occuper plutôt de te servir, car toi, tu t'occupes de nous combler, de nous bénir. Oh Seigneur, merci d'agir et nous faire entrer dans la réalité de ce qui vient d'être prêché. C'est l'heure du service, dit l'Éternel. Merci Seigneur d'agir, car les temps sont mauvais. Le diable multiplie des actions pour envoûter l'humanité entière. Et si nous, les chrétiens, nous n'agissons pas, notre vie va devenir difficile avant le temps, parce qu'on n'aurait pas utilisé les munitions que nous avons. Nous voulons utiliser les munitions que nous avons. Les munitions qui proviennent de ton amour manifesté pour nous à la croix. Cet amour déborde en nous et produit une vie. Si nous respectons cette vie-là, si nous laissons cette vie vivre pour te servir, alors la royauté se manifestera. Alors on pourra vivre une existence paisible sur terre, dans cette terre difficile. Mais si nous refusons de laisser la vie que nous avons reçue au moment où nous avons été sauvés, si nous refusons de laisser cette vie vivre pour te servir, c'est là que même les promesses de la première phase risquent de devenir de l'illusion pour nous. Aide-nous à ne pas céder aux mensonges du diable selon lequel nos méthodes, nos forces à nous ce sont elles qui nous amènent à ce que nous sommes devenus. C'est faux tout ça. C'est par grâce, ta grâce à toi. Et nous ne voulons pas d'une manière irréfléchie prendre les méthodes du diable pour atteindre des objectifs que pourtant toi tu as déjà fixés pour nous et qui seront atteints. Oh Seigneur, agis au nom de Jésus-Christ.